thé à la menthe.
Notre invité aujourd'hui, c'est William Tevio. Salut William.
Bonjour Léo.
Merci
Bonjour.
D'être au micro de Radio Campus. Tu viens nous parler d'un concert qui attend les étudiants ce mercredi à l'Amphi 700, donc à Bordeaux-Montaigne, puisque tu es pianiste.
Oui, effectivement, je suis pianiste classique de profession. Je fais ce métier depuis que j'ai 20 ans. Actuellement, j'en ai 29. Et je fais en particulier ce genre de concert, effectivement, mercredi pour les étudiants. J'aime bien essayer de toucher des publics qui sont éloignés de l'offre culturelle et qui ne vont pas spontanément à la musique par eux-mêmes, parce que ce n'est pas forcément leur culture, parce qu'ils n'ont pas le temps et qui ont besoin de clés, d'écoute, qui ne vont pas forcément chercher au-delà de leurs études, qui sont souvent très prenantes. J'essaie un petit peu de les amener là où ils auraient un épanouissement à découvrir qu'ils n'auraient pas vu par leur propre culture.
Et bah c'est une super démarche, merci beaucoup. Et puis la fac, c'est aussi ça, hein. c'est de la culture, c'est de la musique. Donc tu as organisé ça avec l'Université Bordeaux-Montaigne, il n'y a pas eu de problème.
Avec le service culturel de l'Université Bordeaux-Montaigne, effectivement, ce concert est organisé donc dans des conditions assez bien, puisque c'est dans l'Amphi 700, qui est quand même une salle plutôt intéressante et prestigieuse, avec une bonne acoustique, un bon piano à queue. Et puis comme c'est un concert-conférence, j'essaye souvent de faire en sorte que voilà, il y ait une dimension humaine qui échappe souvent à des concerts, même si ce sont de grandes qualités, classiques, traditionnelles. Moi, j'aime bien quand il y a justement un échange interactif, même avec un public qui soit varié, que ce soit des jeunes, des personnes plus âgées, des personnes en situation de handicap. Et en l'occurrence, le handicap est au cœur aussi de ce concert, et en particulier le handicap invisible, ce qu'on appelle l'autisme de haut niveau, encore plus précisément.
Oui, parce que donc voilà, tu es pianiste, mais tu es aussi autiste, tu as le syndrome d'Asperger, c'est ça ?
Alors je suis diagnostiqué effectivement porteur de ce qu'on peut appeler de l'autisme de haut niveau dit d'Asperger, bien que cette terminologie, à savoir Asperger, soit un peu dépassée, mais effectivement oui, j'ai cette particularité là, et j'essaie de faire en sorte que ce soit déstigmatisé. Que ce soit déstigmatisé pour que des personnes se sentent plus à l'aise, notamment à l'université, qui est aussi un endroit où il y a mine de rien des clés à avoir, qu'on ne donne pas aussi facilement que ça. Les professeurs peut-être comptent sur un écrémage, une sélection naturelle, spontanée, si je puis dire, qui malheureusement ne garde pas forcément la crème, les meilleurs, parce que souvent, les personnes qui ont ce genre de difficultés ne sont pas au meilleur de leur forme lors des examens, lors de cours magistraux qui ne leur correspondent pas. Et ce sont des choses qui les handicapent par-dessus leur handicap dans leur parcours qui pourrait être brillant, mais le corps professoral, le corps administratif, l'université en général ne prend que rarement en compte ces choses-là. Il y a certes des initiatives comme dites ASPI pour Asperger, ASPI Friendly par exemple à Toulouse, dans l'Aude, mais à Bordeaux il n'y a encore que très très peu de choses, même pour ainsi dire rien, à part je crois savoir qu'il y a eu quelques semaines, la Feel Good semaine, la week en octobre, mais bon après ces initiatives qui viennent presque plutôt d'étudiants que de l'université en soi. Voilà.
J'ai l'impression que l'autisme est... Les différents niveaux qui peuvent être diagnostiqués, c'est assez vague pour tout le monde. Est-ce qu'on peut clarifier à l'antenne ?
Oui, alors effectivement, l'autisme, c'est un spectre assez large. C'est un spectre assez large et qui fait qu'il y a des personnes qui ne parlent pas, qui sont aphasiques, qui sont en difficulté de communication de façon déjà fermée à l'extérieur de parce qu'elles sont hyper vulnérables, hyper sensibles, hyper réceptives à tout ce qui peut relever d'un environnement plus ou moins hostile. Il y a des personnes qui sont plus adaptées, plus adaptables à un environnement aussi encore hostile, mais qui arrivent à donner un tant soit peu le change, et c'est là que l'invisibilité de leur handicap est parfois d'autant plus incombant pour leur résistance à terme, puisque quand elles ne montrent pas, quand elles n'ont rien à faire valoir, si ce n'est un dossier médical qui souvent n'existent pas puisqu'elles n'en sont pas diagnostiquées, c'est très délicat de leur permettre un aménagement d'études. Il y a un temps, et d'ailleurs ça doit exister encore, à Bordeaux, à Montaigne, anciennement Bordeaux 3, il y avait ce qu'on appelait le pôle handicap qui a été assez laborieux, même les professionnels actuellement de l'INSPE, des structures qui peuvent plus ou moins accompagner ce genre de profil, le reconnaissent que le pôle handicap est extrêmement laborieux et que beaucoup d'élèves, d'étudiants ne s'y sont pas retrouvés. C'est extrêmement regrettable. Alors voilà, justement, ces degrés d'autisme, ils devraient être étudiés. Je pense qu'il devrait y avoir des interventions dans les classes, même si on n'est plus dans le système scolaire. Même dans le système secondaire, il n'y a pas de honte à se dire, on va quand même être dans une collégialité qui permet quand même de la bienveillance et que ce n'est pas du chacun pour soi. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un endroit où tous les coups sont permis, où il y a un nivellement des personnalités psychiquement. Tout chacun est différent et chacun devrait avoir sa place. Et on devrait le leur permettre, au-delà de ces mots, aussi bienveillants soient-ils, il y a des actes à attendre.
Et justement, toi, tu es engagé, ton combat, c'est, voilà, comme tu l'as dit, une meilleure représentation, en tout cas un meilleur encadrement, une meilleure inclusivité pour les autistes, que ce soit à la fac, mais aussi sur la scène médiatique et dans le milieu culturel.
Exactement, parce que souvent la scène médiatique, elle est appauvrie par l'absence de ces profils atypiques, neuroatypiques, avec autisme ou autres, en ce que ces personnes-là, peut-être, bon, après ce sont des hypothèses, parce qu'on n'est pas allé chercher les personnes, on n'est pas allé les faire sortir de leur terrier, les directeurs de grands médias, pour leur dire pourquoi vous ne mettez pas plus en valeur ces sujets-là, sauf quand ça fait vendre. Par exemple, il y a eu une récemment sur les HPI, tout ça, ça peut être à la mode, c'est aussi l'effet Barnum qu'on appelle en psychologie. Tout le monde peut se reconnaître dans quelque chose. À partir du moment où quelque chose appelle une communauté entière qui va vendre, qui va acheter plutôt, qui va acheter ce qui est vendu de façon un peu commerciale, ça plaît. Mais effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être hors antenne ou actuellement, c'est plutôt très vague ce qu'on en connaît du syndrome d'Asperger, ce qu'on en connaît de l'autisme. Ce sont des terminologies qui ont un petit peu infusé, mais pas forcément toujours de la bonne manière dans l'inconscient collectif, avec des clichés, avec des choses un peu sensationnalistes. Et pourtant, je pense que ça pourrait être davantage étudié.
Oui, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'autisme, notamment le fait que on entend beaucoup que c'est une maladie, alors que pas du tout.
Effectivement, c'est pas une maladie, c'est plutôt un handicap. C'est quelque chose qui est un handicap, ou c'est alors une différence. C'est un handicap par rapport au fait que dans la norme, majoritairement, il n'y a pas de personnes autistes. Mais malheureusement, là aussi, les médias sont absents de cette situation, à savoir révéler que ce sont des personnes qui valent largement le détour et qui devraient être aidées parce qu'elles ne pourront pas arriver par elles-mêmes, sauf persévérance extraordinaire, comme j'essaie d'en avoir une. Mais on essaie de se brûler les ailes non plus, sans se brûler les ailes. On essaie de ne pas se brûler les ailes. C'est assez rare qu'il y ait des personnes qui émergent, ou alors elles sont un peu montées en épingle, si je puis dire, par d'autres pour un passage public plutôt normé, quoi, normatif.
Et toi qui es musicien, William, donc tu as forcément un impact et une place dans les médias, dans le milieu artistique et culturel, mais voilà, la place des autistes, comme tu l'as dit, on les met un peu à l'écart.
Alors, aujourd'hui, je n'ai pas forcément cette entrée dans les médias, dans le milieu culturel, ou alors forcément c'est moi qui le fais par force, si je puis dire.
Parce que tu es artiste, voilà.
Qui fasse en sorte, oui, voilà, j'ai, je veux dire, un angle privilégié pour pouvoir permettre à des personnes d'être plus entendues qu'elles ne le sont, que si effectivement elles avaient des métiers qui étaient moins publics. Mais par exemple, j'ai fait un concert au ministère de la Culture en novembre. Il n'y a pas eu non plus beaucoup de retentissement. C'est pas quelque chose qui a intéressé les médias, qui pourtant ont été très prévenus. Bon, il y a eu quand même deux ou trois médias, dont un qui n'était pas des moindres, qui a réagi. Mais bon, c'est pas quelque chose qui a fait sens dans une société qui pourrait justement valoriser des personnes qui justement arrivent quand même à jouer dans un ministère et à faire une épreuve de grand oral, si je puis dire, social, pour faire entrer ce genre de thématique dans le débat public, parce qu'elle le mériterait. Ça a un peu à choper. Mais après, pour le 2 avril, j'ai proposé, parce qu'il y a la pianiste géorgienne Katia Bunatichvili qui va jouer à l'Opéra de Bordeaux, et le 2 avril étant la journée de l'autisme, lorsque cette dame est passée à la FNAC avec le directeur de l'Opéra de Bordeaux, je leur ai dit, je viens d'apprendre que c'était le 2 avril que vous avez joué, c'est la journée de l'autisme, vous saviez, pourquoi pas faire une petite première partie. Voilà, donc il a dit, oui, pourquoi pas, effectivement, ça peut être une bonne idée, d'autant plus que c'était filmé à côté, mais ça reste à prouver, puisque j'ai envoyé un message hier à moi, et j'ai pas encore de réponse. Mais si vous voulez, on peut l'appeler en direct, directeur de l'opéra, on m'a passé son numéro de téléphone, ça peut être marrant. Enfin bon, voilà, c'était pour la boutade.
Écoute, j'espère que ce serait très bien que tu puisses faire la première partie à l'Opéra de Bordeaux, mais en tout cas... Les étudiants peuvent te voir, enfin les étudiants et pas que, tout le monde est le bienvenu mercredi.
Ah oui, tout le monde est le bienvenu, c'est gratuit.
C'est gratuit, ça voilà.
C'est très très gratuit.
C'est ça qui est bien avec la fac, c'est que c'est gratuit, c'est accessible, c'est tout pour la culture.
Avec la fac, oui, c'est gratuit, mais les études sont payantes, je pense, et il y en a beaucoup là aussi qui arrêtent de par là, et puis en plus, quand ce sont des personnes justement avec autisme, qui n'ont pas de moyens financiers, et qui ont parfois été un peu dans un environnement familial chaotique, c'est encore une problématique qui se double et qui se retriple, et qui se... Voilà. À chaque fois, quand il y a un handicap, malheureusement, c'est un effet domino plutôt pas vertueux, et qui empêche des personnes d'aller de l'avant, alors que souvent, elles ont des talents et des choses à faire valoir.
On revient sur le concert, il est à quelle heure ? On va donner les infos pratiques.
Alors, les infos pratiques, c'est mercredi à 12h30, donc mercredi 22 février à 12h30, midi et demi, et c'est à l'Amphi 700, et c'est gratuit, voilà.
L'Amphi 700, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le campus de Montaigne, c'est très facile. Quand vous descendez à l'arrêt de tram Montaigne-Montesquieu, vous allez en direction de Montaigne et c'est derrière le bâtiment accueil. C'est un grand amphi, vous voyez, il y a des sièges rouges. C'est l'amphi le plus grand de Bordeaux-Montaigne.
Oui, il me semble qu'effectivement, c'est l'amphi, peut-être même, oui, tout à fait, de Laurent de Montaigne, qui est, c'est un endroit très très agréable, et effectivement, c'était un endroit de concert en soi, hein, c'est pas un amphithéâtre d'ordinaire pour les études, c'est même un endroit de concert par origine, je crois.
Est-ce qu'on peut revenir sur le répertoire que tu vas interpréter ce mercredi ?
Oui, absolument. Alors, je me suis noté pour oublier un morceau. Et je vais jouer du Edvard Grieg, la sonate, du Forêt, une œuvre qui s'appelle Après un rêve, arrangé pour le piano. Rachmaninov également, le prélude opus 3 numéro 2. Ce sont plutôt des œuvres, je trouve, romantiques. Moi, j'aime beaucoup le répertoire romantique. Et bon, Satie, un peu moins romantique, mais bon. Gymnopédie, Liszt, la vallée d'Obermann, et Chopin, une valse, et puis pourquoi pas. Bon, après. Comme j'ai dit, c'est un concert interactif, éventuellement une demande du public qui pourrait être plus précise. Je suis preneur. De toute façon, on peut voir mon répertoire sur ma chaîne YouTube, à laquelle je vous invite à vous abonner. Ma chaîne YouTube où il y a pas mal de vidéos. Et justement, on peut voir les morceaux que je joue. Donc, c'est à mon nom, William Theviot, T-H-E-V-I-O-T, pouvoir choisir, parfois même faire à la carte des concerts, me les proposer, parce que je fais des concerts privés, des concerts publics, j'aime bien justement dans des endroits un peu atypiques et originaux. Voilà, on peut me suivre aussi sur Twitter et me proposer ça par message Twitter.
D'accord, donc tu es sur les réseaux, sur Twitter, sur YouTube, tu as un site internet, on peut vraiment te suivre et connaître toutes tes actualités, on peut te contacter, faire appel à tes services de musicien.
Voilà, et puis avec une dimension de conférencier qui peut donner un supplément d'âme justement à des personnes qui ne veulent pas un concert classique où elles vont rien comprendre, où elles vont se donner des airs de des personnes qui sont là et qui ont apprécié, alors que bah, parfois il peut y avoir un médiateur ou une médiatrice, ça peut être pas plus mal.
C'est très bien de le préciser ça, donc c'est-à-dire que mercredi par exemple on peut aussi venir te voir à la fin ou avant pour parler avec toi, échanger sur ta musique, la comprendre s'il y a des choses qui nous échappent, que c'est tout à fait possible.
Exactement, je suis là aussi pour donner des clés d'écoute, je trouve ça extrêmement important parce que souvent ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, on sait plus ce que c'est, on se dit voilà, on a fait une BA de la journée, on est allé voir un concert classique, on pourra dire qu'on a été une fois, mais parfois ça sert à rien, c'est comme on dit du social washing ou du voilà, voilà. Moi, j'aime bien vraiment aller rentrer, mettre la main dans le sac un petit peu plus loin de l'inconscient de certaines personnes qui peuvent se révéler être mine de rien, même si elles n'ont pas été formées à ça du jour au lendemain ou avec un peu plus de progressivité, amoureuses de certaines œuvres classiques qui pourraient les aider davantage à vivre et notamment dans des études souvent laborieuses et précaires. Voilà.
Pour les auditeurs qui sont peut-être néophytes pour certains en musique classique, qui voudraient venir te voir mercredi ou profiter, savoir écouter et profiter de la musique classique, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme clé d'écoute là à l'antenne ?
Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme clé d'écoute ?
Alors, pour pas faire semblant justement d'avoir compris ce qu'on venait d'entendre en musique classique, c'est vrai que c'est important de revenir là-dessus.
Mais déjà, je pense ne pas se plonger dans des morceaux trop complexes de musique contemporaine. En soi, si j'apprécie la musique romantique, c'est parce que c'est une musique qui parle à l'âme et pas à l'intellect. Des morceaux de piano qui ont déjà des intitulés qui sont inspirés, par exemple tout le monde connaît la sonate dite du clair de lune de Beethoven. Pouvoir projeter des choses figuratives, des images, imprégner son vécu de certaines œuvres, ça permet parfois de graver de façon cathartique dans des compositions ce qu'on a du mal à exprimer verbalement. Donc je trouve que c'est un moyen presque thérapeutique, voir la musique déjà par un angle de quelque chose qui pourrait nous soigner. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que j'ai vu que vous me présentiez dans votre post Facebook de ce matin. Voilà, voir la musique par quelque chose de thérapeutique déjà, le considérer non pas comme étant un pain noir, une huile de foie de morue à avaler quand on est enfant, et l'entendre de façon plus thérapeutique en y revenant à plusieurs fois, en mettant plusieurs fois le métier comme on dit, ou inversement à l'écoute d'une œuvre, on peut se dire au bout de trois fois, si j'ai pas aimé, mais je vais, c'est la première fois que je dis ça, je vais essayer trois œuvres, je vais écouter trois fois, trois jours différents la même œuvre, et je vais voir celle qui me plaît le plus, et si dans les jours qui suivent ça m'aide à vivre d'avoir entendu ça, et si quand je la réentends je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Voilà. Vous voyez, j'arrive à faire une dissertation à partir de peu de choses, parce que là, vous m'avez coincé. Parce que généralement, je le fais avec un piano à côté de moi, mais là, abstraitement, c'est un peu étrange.
Et là, le piano tiendrait pas dans le studio, malheureusement.
Ah, oh, pourquoi pas. Je pense qu'il tiendrait. Par contre, pour monter le piano, peut-être.
Ah ouais, mais... les quatre étages, là, par contre, c'est balèze.
Ouais, effectivement.
Bon, en tout cas, voilà, on pourra en profiter bien ce mercredi. Donc, j'ai l'impression que tu as pioché un peu dans ton répertoire et que tu as fait une sorte de best-of, non, c'est ça ? Ou pas vraiment.
Oui, alors effectivement, moi j'aime bien. En fait, tantôt choisir des œuvres plutôt grand public, des œuvres qui vont parler directement à des personnes qui les connaissent comme ça, parce que c'est dans des publicités, parce que c'est des œuvres qui sont souvent utilisées dans des musiques de films, parce que justement, elles sont grand public, faciles à l'écouter de l'oreille. Et puis j'aime bien trouver des œuvres beaucoup moins connues. Et en particulier de compositeurs locaux, de compositeurs de Bordeaux, de compositeurs de la Gironde, de compositeurs de l'Aquitaine. Je suis assez fasciné par cette découverte-là. Voilà, mon débit s'accélère, ma voix remonte quand je parle de ça. J'aime bien effectivement même trouver des œuvres. Donc, on parlait, l'article de Sud-Ouest qui est paru ce matin, parlait d'étudiants invisibles. Moi, j'aimerais bien trouver s'il y a eu des œuvres. D'ailleurs, s'il y a eu des œuvres d'étudiantes ou d'étudiants et qu'ils les écrivent, ils peuvent m'envoyer un message d'ici mercredi. Je pourrais les jouer parce que je pense que il y a un cours de déchiffrage ou de lecture à vue au conservatoire plus ou moins sommaire, mais comme j'ai souvent été dans le déchiffrage dès que j'étais petit au conservatoire de Bordeaux, j'étais boulimique de déchiffrage, je sais pas trop mal déchiffrer, donc je serais heureux s'il y a des partitions qui tiennent à tant soit peu la route, ou même qui voilà, sont modestes mais qui ont quelque chose à dire, les jouer des œuvres d'étudiantes ou d'étudiants de Bordeaux d'ailleurs. Mais voilà, j'aime bien trouver des œuvres atypiques et qui fassent sens, notamment avec une histoire derrière, et une histoire notamment quand il y a eu des situations de difficulté, de handicap, de manque d'intégration, c'est un peu ma thérapie personnelle, voilà. Et j'espère la dilater à l'échelle d'autres personnes à qui ça puisse faire du bien.
Quand tu parles de thérapie, c'est quelle forme de thérapie ? Parce que l'autisme, c'est pas quelque chose qui se soigne.
Effectivement, se soigner au sens d'en prendre soin peut-être, d'accord, mais pas de se soigner au sens de voilà.
Oui,
effectivement,
c'est
quelque chose qui s'accompagne. C'est quelque chose qui a des facultés surdéveloppées sur certains domaines et des facultés beaucoup moins développées, voire pour le dire sous-développées sur des justement choses qui paraissent évidentes de communication sociale, de choses qui sont de code, a priori un petit peu abstraits, mais qui sont vraiment indispensables en société. Donc c'est très délicat pour elle de voir ça. Alors parfois il y a des groupes d'habileté sociale, ça j'y crois pas trop, je pense que c'est plutôt à la société, à l'université, au monde environnemental, institutionnel, de s'adapter à la personne autiste, parce que ce qu'elle fait est pourtant la plupart du temps plutôt bédin, plutôt complètement inoffensif et largement défendable. Donc voilà, dans ce sens-là, effectivement, je pense que ce serait plutôt à l'environnement à se soigner quand il est confronté à une personne autiste dont il a besoin et qu'il maltraite parfois sans le vouloir et parfois en le voulant, si je puis dire. Voilà.
Donc tu as fait tes études musicales au Conservatoire de Bordeaux, c'est ça ?
Oui.
Et après en musicologie à Bordeaux-Montaigne.
Oui, alors j'ai fait une année de musicologie à Bordeaux-Montaigne, effectivement. Bon, celui-là, à parler de ça, c'est parce que j'étais peut-être pas forcément bien à l'aise dans ce genre de dynamique qui requérait pas forcément des aptitudes humaines très intéressantes, sinon comme en médecine, d'apprendre des choses un peu par cœur et d'être pas forcément un passionné, mais plutôt un staccanoviste. Bon, c'est pas mon truc, voilà.
D'accord.
Ouais, c'est pas incompatible, mais bon, voilà.
Et au conservatoire, tu as étudié combien d'années là-bas ?
J'ai étudié combien d'années au conservatoire ? J'ai étudié 15 ans de conservatoire, 5 au conservatoire de Mérignac et 10 ans au conservatoire de Bordeaux.
Tu peux nous parler du fait que en tant qu'autiste de suivre des études au conservatoire, que c'est quand même assez balèze. Comment est-ce que ces conservatoires s'adaptaient à ton
handicap ? Ces conservatoires ne s'adaptaient pas et aujourd'hui ils s'adaptent peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup. Il y a maintenant un tant soit peu de référents handicap. D'ailleurs, c'est une obligation du ministère de la Culture et il y en a encore qui dérogent à la règle. D'ailleurs, ils ont attendu que ce soit vraiment une obligation légale et qu'il puisse y avoir une amende pour que ce soit ça. Donc ça en dit long parfois de la mentalité de ces personnes qui n'ont pas envie de prendre la tête pour des personnes qui pourtant valent, comme je le disais, bien le détour sur un plan étudiant. Hein. Et donc du coup, on est livré à soi-même. Le professeur ne comprend rarement les besoins spécifiques, comme on dit, de l'élève. Par exemple, moi, je posais souvent des questions, j'avais besoin d'en rentrer autant sur un plan émotionnel, intellectuellement, et historique de l'œuvre, tout ça, je posais des questions, et puis là, c'était plutôt un entraîneur sportif, le professeur, c'était plutôt un entraîneur olympique, qui allait dire, tu travailles ça, tu travailles, il faut stotter, là, tu fais quelque chose, c'est un peu, pas forcément très très constructif pour un élève qui a... je pense, je dirais qu'un professeur a charge d'âme, plus que charge de doigt. Ah, tiens, ça, je le dirais plus une autre fois, parce que là, tu me l'as inspiré, là. La charge d'âme plutôt que charge de doigt, effectivement. Et j'aurais aimé plutôt lui montrer mon âme que lui montrer mon doigt, d'ailleurs. Ça peut être aussi une jolie... mon doigt d'honneur. Voilà, mais ça s'est passé comme ça. Et donc, voilà. sur ce, oui, pour en venir à quelque chose au-delà de la boutade, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'accompagnement. Il y a des associations qui font ça, mais c'est qui essayent, comment on dit, de vider un peu l'océan avec une tasse, quoi. Puisqu'il y en a beaucoup de conservatoires. Il y en a énormément de conservatoires, enfin d'écoles de musique. J'entends aussi écoles de... Voilà. Et donc, du coup, c'est extrêmement délicat. C'est un travail énorme. Moi-même, je propose à des conservatoires. J'ai été, par exemple, au conservatoire de Paris en décembre, là, leur proposer quelque chose. Au conservatoire aussi Rachmaninov, conservatoire russe de Paris également. Mais c'est un peu frileux. C'est, on dit ça, on dit qu'on est ouvert et que tout ça, mais après il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de pour proposer qu'il y ait une sensibilisation auprès des élèves, de réunir les élèves pour parler de ça, qu'ils ménagent leurs collègues quand ils voient qu'ils sont un peu isolés ou que voilà, ou comment aller vers eux, leurs collègues étudiants. Donc c'est il y a beaucoup encore de chemin malheureusement, si je puis dire. Ouais.
Ouais, les organismes sont pas vraiment réceptifs en fait à toute forme d'action que tu peux mener.
Effectivement.
Toi et d'autres. Hein.
Effectivement, c'est enfin là on parlait d'école de musique ou de conservatoire. Après, il y a d'autres organismes qui sont plus par exemple le ministère de la culture, il a été a priori réceptif. Donc ça a été quand même plutôt une très belle surprise. Et du coup après bon, il y a eu quand même d'autres initiatives. Par exemple, je devrais faire une résidence artistique en Vendée auprès d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Bon, certes, c'est encore des gens qui sont plutôt renseignés, parce qu'ils ont. Mais quand, effectivement, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, où une entreprise se dit, bah tiens, pourquoi ils vont nous emmerder avec l'histoire de handicap, alors que, bon, voilà, on a déjà une responsable RSE, parce que souvent, c'est, si je puis dire, pas trop parler ni sous l'empire d'une colère, ni sous l'empire d'un accablement, ni sous l'empire d'une tristesse, je pense le dire très objectivement, c'est souvent des planques. Les personnes qui ont des responsabilités sociales de l'entreprise, référent handicap, c'est des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, qui ont peut-être un peu plus de tact, si on peut dire, humain et de contact externe, qui peuvent être voilà, montrables, présentables pour un média quand voilà, bah, c'est des gens qui auraient pu être à un poste de communication, mais qui ont été à un poste chargé de personnel en situation de handicap, mais qui n'en savent pas plus que ça. Voilà, donc en fait, je pense qu'il y a une immense imposture, si je puis dire, poliment, dans ce cadre-là, entrepreneurial et sociétal, où effectivement on fait semblant souvent de s'intéresser à des profils de personnes handicapées, mais c'est quand ils sont rentables, et sinon il n'y a pas forcément de suivi. Ouais.
Et est-ce que tu fais partie d'associations ou d'organisations qui soutiennent les handicapés, les autistes,
Alors j'étais moi-même président une fois d'un qu'on appelle un groupe d'entraide mutuelle, GEM. Et du coup, bah, c'était une association, un genre d'association de manière générale qui est un peu, dont la tournure n'est pas forcément très 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 heureuse pour l'autonomie des personnes autistes. Non pas que, bah, au contraire, bah, ça peut être bien pour l'autonomie parce que on les rassemble et on les fait se connaître entre elles, on leur voilà fait des sorties entre elles. Mais par contre, pour l'autonomie vraie au sens où elles peuvent se débrouiller par elles-mêmes. Comme disait une citation, je crois que j'avais vue dans le bureau de mon père quand j'étais petit, que si on veut aider quelqu'un qui a faim, on va pas lui donner un poisson, on va lui apprendre à pêcher. Je pense qu'effectivement, les pêcheurs, au sens double du terme, ils n'aident pas les personnes autistes à être dans quelque chose qui puisse leur sauver la vie à long terme. Parce que les personnes autistes, elles ne sont pas que enfants autistes, elles ne sont pas que adolescents autistes. Elles deviennent adultes autistes et elles deviennent vieillards autistes si elles arrivent jusque-là, puisque l'espérance de vie est à 54 ans. Effectivement, souvent, on parle des enfants autistes. Mais ça ne disparaît pas comme ça. Et elles sont souvent mises à mal et les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, ne les aident pas à ça. Et puis, par-dessus le marché, il y a souvent des histoires de gabegie financière, des détournements de fonds, des histoires de malversations. Donc du coup j'ai préféré sortir de cette situation là. Donc l'associatif, je n'y crois pas beaucoup. Je pense plutôt aux initiatives individuelles qui parfois vont beaucoup plus loin plutôt que des choses associatives qui vont juste faire un tract pour dire qu'ils ont une soirée où il y aura 3 personnes. Là, je pense que peut-être que mercredi, du moins je l'espère, il y aura beaucoup plus que 3 personnes, d'autant que c'est gratuit, il faut le rappeler.
C'est gratuit, on vous le rappelle, chers étudiants et auditeurs, c'est gratuit, c'est ce mercredi 22 février à 12h30 à l'Amphi 700 de Bordeaux-Montaigne. C'est vraiment très facile à trouver à la fac, au pire, demandez aux étudiants qui parcourent le campus ou à l'accueil, tout simplement. Voilà ce qu'on peut dire sur ce concert. On peut évidemment échanger avec toi après le concert. Et dans tes actions, je crois aussi que tu as le projet de réaliser un film pour valoriser les personnes autistes.
Absolument, effectivement. Bah, merci d'en parler, effectivement, parce que j'allais l'oublier. Je l'ai oublié. D'ailleurs, samedi, j'ai fait un concert à Saint-Hergy-Pontoise, mais j'ai oublié de le dire, un concert-conférence. Parce qu'effectivement, même si les salles ne sont pas forcément concernées par ce genre d'initiative et qu'elles sont plutôt tournées vers la musique, je dis que ça peut être pas plus mal d'en parler quand même. On ne sait jamais. Donc, effectivement, j'aimerais bien faire un film documentaire à propos d'artistes autistes qui sont dans des choix qui leur appartiennent et qui appartiennent aussi à l'inconscient collectif, mine de rien. Là encore, peut-être c'est une notion dont j'abuse à tort et à travers. Mais j'aimerais effectivement que le capital des personnes autistes, comme dans une banque, comme si on imaginait que dans une banque, il y avait des avoirs de l'inconscient collectif qui sont pas forcément accueillantes à l'égard du capital émotionnel, hein, intégratif et intellectuel de personnes autistes, eh ben, je pense que ça pourrait enrichir la société. Et ça, ce genre de film, documentaire, pourrait le montrer, comment cette autodétermination, puisque c'est le terme consacré, je crois, de personnes autistes, quand elles arrivent à aller plus loin dans leur situation qui est souvent où elles sont livrées à elles-mêmes, ça peut être très inspirant pour des personnes qui sont déjà en difficulté, mais qui au moins n'ont pas de handicap, qui ne sont pas stigmatisées, même si parfois on peut stigmatiser sans avoir de handicap aussi sur un plan social. Je pense que les personnes autistes peuvent être un catalyseur, un œil du cyclone assez inspirant pour toute une galaxie de choses qui sont autour d'eux et dont elles ne se sentent pas concernées, dont la société ne se sent pas concernée. Mais pourtant, ça peut être un immense trait d'union assez méconnu. Et j'espère que ça puisse faire écho à quelque part un jour. Bon, voilà, je ne suis pas pressé, mais bon, quand même un peu. qui est un film documentaire à propos d'artistes autistes, musiciens, arts plasticiens. Voilà, justement, ben, au-dessus de la Maison des Arts. S'il y en a déjà qui entendent à Bordeaux-Montaigne et qui seraient intéressés pour rejoindre ce genre d'initiative, moi, je serais très heureux, parce que je pense que au-delà de citer des personnes qui seraient à parler pour nous, autant parler de nous nous-mêmes.
Parce que c'est vrai que les personnes autistes, même de manière générale, dans les films ou la culture populaire, sont très très peu représentées. Là, le premier exemple et le plus flagrant qui me vient, c'est Rain Man, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce film, de la représentation des personnes autistes? Est-ce que ça a fait avancer justement la cause? Est-ce que ça a sensibilisé les gens là-dessus?
Alors, sur un plan, est-ce que ça a fait avancer la cause au plan de la connaissance de ce spectre de troubles assez varié? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que c'est assez cliché. Après, ça a une valeur, D'accord. C'est un produit culturel en soi, c'est romanesque, c'est intéressant, c'est bien tourné, au sens, double sens du terme. Moi, je ne vais pas critiquer ce film, je l'avais vu, je m'en rappelle, même avec ma maman, on avait eu versé peut-être quelques petites larmes, c'était très touchant, voilà. Après, je pense même que ce film a fait bénéficier des associations, alors je ne sais pas lesquelles, aux États-Unis à son époque, d'avoir plus de financement, ils avaient été, voilà, peut-être ça a aidé à ça. Mais après, effectivement, on en est loin maintenant, je crois que ça date de 1989.
Oui, il est
vieux. Donc maintenant, je pense qu'on a largement dépassé ça et que c'est une référence qui est un peu moisie. Bon, même si, voilà, c'est un film très intéressant, le temps de 2 heures de l'avoir vu et puis de l'avoir juste comme référence au fond de son sac, mais on ne doit pas l'avoir à sortir, à dégainer tout de suite quand on parle d'autisme. Pepsi, effectivement. C'est encore une référence que beaucoup de monde a, mais il y a eu énormément d'avancées depuis. Je pense que voilà, il y a des choses à l'endroit desquelles on peut se renseigner qui sont davantage collantes à la réalité et à ce qui peut aider. Voilà. Mais merci d'avoir mentionné ça parce que c'est.
Mais je t'en prie, voilà. William, et moi je te remercie aussi beaucoup d'être venu à Radio Campus. On va devoir rendre l'antenne malheureusement, mais William, on rappelle aux auditeurs que tu fais un concert ce mercredi 22 février à 12h30 à l'Amphi 700 à Bordeaux-Montaigne. C'est gratuit, venez très nombreux, il y a 700 places, c'est dans le titre de l'Amphi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un très bon concert?
Mais ce qu'on peut me souhaiter, c'est aussi ce que je peux souhaiter à des étudiants et des étudiantes, c'est à savoir que bah déjà ils peuvent m'envoyer, comme je disais, des partitions s'ils les ont écrites et qu'ils veulent se les faire entendre jouer lors de ce concert à l'Amphi 700. Et puis ce que je peux souhaiter, c'est surtout à l'université et aux personnes qui sont dedans et qui la subissent au sens administratif du terme, mais aussi à un autre sens du terme, c'est d'être davantage intégré et de pouvoir avoir du courage pour le faire valoir par eux-mêmes, parce que je pense pas qu'ils aient à attendre à grand chose de cela, voilà, de cet environnement-là un peu hostile. Avoir du courage par soi-même et essayer d'aller de l'avant, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais.
Merci beaucoup William. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais donner ton contact à l'antenne pour justement ces
oui,
étudiants
absolument, je
qui voudraient te donner les partitions?
Oui, absolument. Alors, je m'appelle William Thevio. Thevio avec un T comme terrasse ou Thérèse. Thevio. Et puis, on peut me joindre donc sur Facebook. J'ai une page Facebook Pro, sur ma page Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn. Et je pense avoir fait à peu près le tour, effectivement. Je pense que sur YouTube même, il y a moyen d'envoyer des commentaires en message, voilà, en me disant ben voilà, William, voilà, on serait heureux de ce que tu joues nos partitions, on voudrait te faire découvrir des partitions, ou alors on veut parler d'autisme avec toi. Voilà, il y a beaucoup de moyens d'entrer en contact avec moi, je suis assez polysémique dans mes passions.
Merci beaucoup, on vous souhaite un excellent concert à tous mercredi.
Merci Léo, merci.